7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, on parle de ce qui pourrait être le plus beau jour d'une vie, le mariage. Et là, j'en vois déjà qui sourit avec un petit pli d'ironie au coin des lèvres. Alors, organiser son mariage, bonheur ou casse-tête, il y a la volonté des familles, le respect des traditions, ou au contraire, la recherche éperdue d'originalité selon les cultures. Et partout, surtout, il y a les factures. Dans de nombreux pays, surtout anglo-saxons, un nouveau métier est apparu. Ce sont les wedding planners, organisateurs de mariages, souvent des organisatrices d'ailleurs de mariages. Nos invités aujourd'hui, Inès Matsika, Marina Marcoux, bonjour à toutes les deux.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et vous publiez le grand livre du mariage, un livre pratique avec des conseils, mais qui en dit long sur l'inquiétude que suscite l'organisation de cette cérémonie. Vous avez beaucoup d'anecdotes à raconter, tellement le mariage a pris des proportions, on pourrait dire insensées parfois. Nous serons aussi en ligne avec Moïse Gomis, notre correspondant à Lagos au Nigeria. Il est basé à Abuja, mais il a enquêté sur ce sujet à Lagos. Il nous racontera le faste des mariages des classes aisées, voire très aisées, où l'industrie du mariage contribue à l'économie locale, tailleurs, décorateurs, vidéastes, pour partager ensuite sur les réseaux sociaux. Et rien n'est laissé au hasard, et encore moins à l'intimité des couples. Sans parler de la dot qui rend les négociations très âpre. Et chez vous, les voisins, les voisines, quelle pression subissez-vous pour l'organisation de votre mariage? On attend vos appels au 33 1 84 22 71 71. Surtout, appelez-nous dès maintenant parce qu'en fin d'émission, on a un autre sujet. Charlie Dupio, Alice Milo, deux reporters de 7 milliards de voisins, viendront nous parler du lancement de leur premier podcast indépendant, Postscriptum, à découvrir tout à l'heure. Allez, on revient au sujet qui nous intéresse, le mariage, avec des témoignages d'auditeurs. Elodie est à Lomé au Togo. L'organisation d'un mariage constitue un travail de longue haleine, très fastidieux, nous dit cette voisine. Beaucoup de stress, mais à la fin, c'est du bonheur. Achille est à Douala, pas tout à fait du même avis. Je reviens juste du mariage de ma sœur et mon beau-frère est passé par tous les états. Véritable calvaire. Victor est à Kigali au Rwanda, il est marié. Mon mariage a été le plus beau jour de ma vie. Du stress, certes, avec les préparatifs, mais je contrôlais tout, nous dit Victor. Mon mariage m'a coûté une dizaine de milliers de dollars, 8 850 euros en euros, on a traduit, parce que je me suis équipée. Je conseille aux jeunes de faire attention aux dépenses futiles et de prévoir les priorités. Ibrahim à Niamey nous dit « Moi, je croupis encore dans le célibat ». Faute d'argent. Mamadou à Bamako nous dit que le mariage, c'est l'événement le plus coûteux dans une vie. Après le mariage, l'homme va mettre un certain temps à payer les dépenses liées à ce mariage. Idarou, c'est aux Comores. Le grand mariage s'étale sur une semaine chez lui. Des millions sont dépensés. Il représente souvent les économies de toute une vie. Et Luther à Lubumbashi, dans le sud de la RDC. Aujourd'hui, la dot n'est plus symbolique comme au temps de nos ancêtres. C'est de la surenchère. Pour épouser une femme, il faut dépenser au moins 2 500 $. Il faut rajouter les objets en nature comme une chèvre, des casseroles. On arrive à 3 500, voire 4 000 $, ce qui empêche les jeunes de se marier. Message d'un voisin aussi qui a été posté sur WhatsApp. Il est à Mopti, au Mali, en deuil après de nouvelles violences intercommunautaire, mais malgré tout, la vie continue. Écoutez-le, c'est Edouard.
En fait, le mariage, s'il est librement consenti, en principe, c'est un bonheur, mais c'est aussi une terreur, en ce sens que, avec la nouvelle configuration de notre société, il y a les nouvelles dépenses qui se greffent. Après le mariage, il faut certainement aller dans un restaurant, ou bien dans une boîte, ou bien dans un hôtel pour faire la matinée. Après, il faut faire un dîner. Tout ça, ça coûte excessivement cher, surtout dans le contexte malien, où c'est les hommes en partie qui ont la charge des dépenses, les pressions de la belle famille, la maison, aménager la chambre. Tout ça, ça coûte tellement cher. Et s'il faut faire face le jour du mariage à toutes ces dépenses aussi, ce n'est pas facile. Donc, il faut vraiment avoir une grande personnalité pour pouvoir résister et faire le mariage en fonction de ces moyens.
Il faut avoir une grande personnalité pour résister. Gabriella est à Yaoundé, elle nous a posté ce message sur WhatsApp.
Au Cameroun, organiser son mariage, c'est à la fois un bonheur, à la fois une grosse terreur. Parce que s'il fallait mettre 100%, je dirais que c'est 80% de terreur. Il faut les négociations avec la belle famille, entre les différentes familles. Personne ne s'entend, tout le monde veut tirer la couverture de son côté. Il faut pouvoir gérer la dot qui, à mon humble avis, est tellement colossale en Afrique et bon, surtout au Cameroun, entre certaines tribus, certains clans. Et ça se gère de plus en plus entre le futur mari et la future femme qui doivent pouvoir manager ça ensemble et pouvoir gérer cette négociation auprès des parents, surtout pour la fille. C'est beaucoup d'argent. Si on regarde en francs CFA, on est parfois dans une vingtaine, voire une trentaine de millions de francs CFA pour organiser une noce de 2 jours, quoi. C'est costaud, c'est très costaud.
Alors heureusement, tout le monde ne se marie pas pour 45 000 euros un mariage. Hein. Forcément, il y a des mariages moins coûteux, mais tout de même, on voit bien hein, la pression qui ressort de vos témoignages. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71.
C'est un village mondial, donc on est tous des voisins, tous ensemble.
7 milliards de voisins, et entre nous là, entre les voisins. Hein?
7 milliards de voisins, c'est vous qui faites l'émission.
Inès Matsika, Marina Marcou, vous publiez Organiser son mariage, ça se passe en France, mais tout de même, vous êtes surprise ou pas par les témoignages qu'on a entendus?
Ce qui est très frappant dans tous ces témoignages, c'est ce qui ressort en tous les cas, c'est le coût qui peut être faramineux du mariage, la pression que toutes ces personnes dont elles témoignent et qu'elles ont vécu, et le stress également engendré par le mariage, et puis le poids de la dot. Ouais. J'ai beaucoup aimé un des auditeurs qui a dit qu'il fallait vraiment garder une forte personnalité pour résister à toute cette pression. Je pense que le point stratégique, il est là. Il faut vraiment faire attention au final à faire un mariage qui nous ressemble et se délester du poids des traditions au maximum.
C'est ça, on entend dans les témoignages le « il faut » beaucoup, hein, le « il faut ». Qui est le « il faut » finalement, Marina Marcou?
Eh ben, c'est la question que j'aimerais leur poser. C'est qui vous met la pression comme ça? Parce qu'effectivement, ce qu'on entend beaucoup, c'est « ça coûte, ça coûte ». Alors évidemment, on dit « quand on aime, on ne compte pas ». Mais alors quand on se marie, on dépense. Hein. Donc finalement, on compte un petit peu même quand on s'aime. Le « il », je pense que c'est la société, hein, tout simplement, qui met cette pression. Et les autres.
Dans tous les pays, finalement.
Et dans tous les pays. Puisque aujourd'hui en France, on n'avait jamais vu ça. 25% des futurs mariés contractent un crédit à la consommation. C'était pas du tout
pour
le cas.
Pour payer le mariage.
Pour payer le mariage. C'est énorme, 25%.
Alors, on est dans un pays en France, dans l'un des rares pays au monde, où il est parfaitement admis de faire des enfants hors mariage. Et d'ailleurs, il y a des auditeurs en Afrique qui nous ont dit bah, c'est tellement cher que nous, finalement, on a fondé une famille, on ne se marie pas. On en arrive aussi au même choix. Du coup, on se marie beaucoup moins en France depuis quelques années. 235 000 mariages célébrés en 2018 contre 305 000. Enfin, ça fait quand même beaucoup en moins, près de 70 000 mariages en moins en l'an 2000, donc en 18 ans, a perdu 70 000 mariages.
Alors, la meilleure année, effectivement, ça a été 2000, parce que c'était le boom des années 2000, ça faisait bien de dire, c'était symbolique, on se marie en 2000, donc un boom incroyable. Le plus bas taux de mariage revient à 2016, où c'était le taux le plus bas depuis 46. Et depuis 2017, là, on a une toute petite progression.
Pourquoi on se marie moins? Justement parce que ça coûte cher.
Parce que ça coûte cher, parce qu'on peut effectivement faire des enfants sans avoir à se marier, parce qu'on n'est plus trop sûr aussi.
C'est ça. Ouais. Pourquoi se marier finalement?
Pourquoi se marier?
Alors, le mariage n'a plus grande importance finalement, mais quand il y a mariage, alors là, ça devient une affaire hyper importante, non?
Oui, absolument. Les gens prennent ça à cœur et ont même peut-être un peu trop de tendance à vouloir transformer leur mariage en une sorte de spectacle et à vouloir avoir une espèce de cérémonie qui ressemblerait à un très joli feed Pinterest ou Instagram. Alors qu'au final, le mariage, c'est quoi? C'est quand même l'union de deux personnes qui s'aiment et qui veulent juste être entourées de leurs proches pour témoigner de cet engagement. Il faut pas oublier ça. C'est vraiment l'union de deux personnes.
Toutes les deux, vous avez travaillé comme journaliste dans la presse spécialisée mariage, car il existe une presse spécialisée mariage, que ce soit une presse sur internet ou des magazines papier avec évidemment des robes de mariée. Comment vous avez vu en 15 ans, comment vous avez vu évoluer ce marché du mariage?
Alors, le marché du mariage aujourd'hui représente 1 milliard d'euros en France, ce qui est énorme. Et alors, l'évolution, c'est l'influence des pays anglo-saxons. Avec cette profession dont vous parliez tout à l'heure qui est arrivée, le wedding planner qui est arrivé. Donc ça, il y a eu cette progression, il y a eu cette évolution. On se marie plus tard aussi, aujourd'hui. Ce ne sont plus les parents des futurs mariés qui contribuent au financement. L'âge moyen, c'est 38,4 ans, je crois. 38 ans, on va dire 38 ans pour les hommes et 35 ans pour les femmes. Donc en général, on est quand même installé dans la vie. On peut payer soi-même son mariage. Donc on a vu ça. Puis comme disait Inès, c'est effectivement l'influence des réseaux sociaux. Alors ça, c'était révolutionnaire.
Oui, et puis une tentation de vouloir animer de 10h jusqu'à 2h du matin son mariage et en faire effectivement une espèce de très 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 grand spectacle.
La tendance est donc à la professionnalisation d'un moment privé finalement. C'est-à-dire que la tendance c'est à dire prenez un maquilleur professionnel, prenez un photographe professionnel, ne faites rien vous-même ou par les amis.
Alors non, on va professionnaliser l'organisation, la mise en place, le choix des prestataires. En revanche, et quelqu'un avait donné l'exemple, c'est Kate Middleton. Lorsqu'elle se marie avec le prince William, elle décrète elle-même « Je me suis maquillée toute seule ». Un peu difficile à croire, mais apparemment oui.
Oui, parce que la tendance du « do it yourself », elle est vraiment ancrée quand même dans notre société. On cherche vraiment à personnaliser à fond son mariage en faisant des choses par soi-même, en décorant, en s'entourant en fait de ses amis pour trouver des petites solutions sympas pour décorer les salles de réception ou autres. On cherche vraiment à créer aussi une réception à son image.
Les préoccupations des futurs mariés aujourd'hui, quand ils viennent voir. Alors, vous n'êtes pas wedding planeuse, mais enfin, vous avez écrit un livre qui remplace la wedding planeuse hein, pour organiser son mariage. C'est quoi les principales préoccupations aujourd'hui de l'organisation du mariage ?
D'avoir, alors c'est ce qu'on entend souvent, un mariage unique. Tout le monde veut un mariage unique.
À son image.
À son image. Mais quand on regarde justement sur les réseaux sociaux, on voit qu'ils finissent tous par se ressembler. Le costume, c'est toujours un costume un petit peu bleu pour monsieur avec un nœud pape coloré. Mais pense à... c'est ça l'originalité. Mais en fait, tout le monde fait la même chose. La femme va porter une robe bohème, elle pense qu'elle est unique, avec une petite couronne de fleurs dans les cheveux, des petits fanions comme décoration, un esprit festival. Tout le monde fait la même chose. Mais en revanche, tout le monde veut quelque chose d'unique.
Oui, et ce qui ne change pas, par contre, c'est les postes principaux en fait, du mariage, qui sont les grosses préoccupations des futurs mariés. C'est la salle de réception, c'est la tenue, c'est choisir le bon traiteur. C'est les questions en fait, qui ne bougent pas et qui vont concentrer le plus l'attention des mariés tournent autour de ces trois thématiques-là.
On dépense plus aujourd'hui pour son mariage qu'il y a 15 ou 20 ans ?
Alors, le budget moyen d'un mariage reste de 12 000 euros, mais il y a 15...
Ah oui, pour 100 personnes.
Pour 100 personnes, ça c'était il y a 20. Aujourd'hui, c'est 12 000 euros pour 80 personnes. Donc, c'est le même budget, mais on va dépenser plus. On change les postes de dépenses. Par exemple, avant, on mettait beaucoup justement sur la robe, hein, la tenue qui reste très très importante, mais on estimait qu'il fallait dépenser à peu près entre 1 500 et 2 500 euros pour une robe. Aujourd'hui, on peut trouver des robes vraiment à des prix très intéressants dans les magasins classiques, sans avoir...
Des robes d'occasion trouvées sur Internet.
Bien sûr, ou la location la location aussi de robes de mariée, d'accessoires, la location du costume. Mais en revanche, on va mettre le paquet aujourd'hui beaucoup plus sur c'est ce que vous disiez, hein, la décoration. Là, on n'hésite pas. Et l'animation.
Alors, vous avez un métier où forcément, vous avez vu des choses incroyables, des anecdotes, des volontés, des caprices, des...
Alors, en tant que journaliste, on a interviewé pas mal de futurs mariés, mais aussi d'invités, parce que c'est aussi comme ça qu'on récupère les anecdotes. Donc oui, il y a toujours l'anecdote sur la bridezilla, cette future mariée qui se transforme en monstre, bride la mariée et zilla comme Godzilla le monstre, qui tout d'un coup a des exigences vis-à-vis même de ses invités, qui va demander à ses témoins de perdre du poids, de ne pas paraître trop grand par rapport à elles sur la photo. Elles ont des ordres à respecter pour que tout soit parfait.
Mais attendez, là, vous parlez de personnes anonymes. Vous ne parlez pas de stars du show business.
Eh ben non, parce que c'est ça qui est amusant. C'est que les stars qui, avant, donnaient un petit peu le là, elles, aujourd'hui, elles ont compris, elles décident de se marier en secret. Et à très peu. Elles partent à l'étranger, elles partent en secret, et on la prendra quelques semaines plus tard dans la presse.
Et ça veut dire qu'aujourd'hui, les fiancés organisent leur mariage comme si ça allait devenir un événement public d'une certaine manière.
Oui, puisqu'ils le rendent public via les réseaux sociaux, parce qu'il est maintenant très très courant effectivement d'organiser son mariage en s'appuyant sur les différents réseaux sociaux. Et donc on dispatche des images de son mariage, donc il faut qu'il soit le plus parfait, le plus beau possible, parce qu'il faut qu'il soit instagrammable entre guillemets.
Alors, il y a beaucoup de mariages multiculturels en France. Hein.
Mm-hmm.
Qu'est-ce que ça change ?
Bah, c'est
un casse-tête de plus ?
Ça peut, mais ça peut être aussi une richesse supplémentaire, parce qu'on va mélanger les cultures. C'est le moment de faire connaître à sa belle famille une culture qu'elle ne connaît pas. Alors oui, ça peut être des casse-têtes, mais c'est ce que disait une de vos auditrices, c'est 80% d'horreur, mais elle parlait surtout du mot négociation. On n'est même plus dans le compromis, c'est négociation. Bah, voilà, oui.
Mais aujourd'hui, alors vous nous le disiez, ce sont les couples, d'abord on se marie plus tard, donc les couples ont un emploi, des revenus, ils prennent un crédit à la consommation, vous nous le disiez. Donc du coup, quelle négociation avec la famille, les couples sont plus libres du coup, puisqu'ils payent, ils sont plus libres par rapport à la pression familiale, non ?
Alors, on pourrait le croire, mais il peut rester une pression pour le nombre d'invités.
Ou une image aussi à respecter, une image traditionnelle à respecter auprès des proches.
Mariage religieux ou pas ? Les parents vont peut-être insister pour un mariage religieux alors que les futurs mariés ne le souhaiteront pas. Il faut négocier.
Il y a des mariés, des fiancés qui se cherchent un sponsor pour leur mariage. C'est vrai, ça existe vraiment ?
Oui, ça c'est une tendance assez forte et ça permet tout simplement d'alléger le coût du mariage. On va aller vers des prestataires qui vont offrir soit une gratuité, soit vraiment des tarifs très avantageux. En l'échange d'une visibilité sur le mariage.
Vous trouvez que le mariage en France a tendance finalement à s'uniformiser, à s'américaniser, comme vous le disiez tout à l'heure, ou encore quand on va d'un pays à l'autre, on sent bien quand même qu'aucun mariage ne se ressemble d'un pays à l'autre ?
Il y a des choses qui ressemblent de plus en plus au mariage, notamment anglo-saxon. L'arrivée du wedding cake, tout le monde a son wedding cake. Au lieu d'avoir
le gâteau du mariage.
Le gâteau qui est sur plusieurs étages ou qui va être un gâteau très crémeux avec une grande décoration, alors que la tradition française, c'est plutôt le croque en bouche, c'est les petits choux, normalement. Donc le petit chou disparaît un peu. Donc oui, alors si, il y a quelque chose qui est très 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 tendance, ce sont les cérémonies laïques où ils vont demander, donc il y aura le mariage civil puisqu'en France le mariage civil est forcément obligatoire, mais ils vont demander une autre cérémonie pour qu'elle soit plus symbolique. Donc on va demander à un officiant de venir faire la cérémonie, mais on va mettre en scène. Donc on va organiser
et à l'extérieur
souvent,
ça c'est vraiment la nouveauté. Ouais.
Comme ce qu'on peut voir dans les films.
Oui, exactement, c'est ça, ce que j'allais dire, c'est ce qu'on a vu dans les séries américaines.
C'est exactement ça. Donc ça c'est uniforme, oui, voilà, mais en revanche, on n'a pas encore vu la tendance en France, pas trop, des bridesmaids. Donc ce qu'on appelle les filles d'honneur, y a les enfants d'honneur qui restent en France, mais les témoins, voilà, ça peut être des hommes et des femmes, et on ne va pas les obliger à porter une robe ridicule encore.
Se marier avec un tout petit budget, ça existe encore en France, ou dans ces cas-là, ça veut dire qu'on ne se marie pas du tout ?
Non, je pense qu'on peut vraiment se marier avec un petit budget. Il y a tout un tas d'astuces qu'on peut appliquer, comme tout simplement la plus grosse, c'est le fait de se marier en dehors des grosses périodes de mariage. Donc, en général, la grande période, ça court d'avril à octobre. Si on se marie en hiver, on a la possibilité au moins d'avoir des ristournes de 30 à 40% en fait, sur les différents postes de dépenses.
Pour ce qui est du lieu, évidemment, parce que c'est le principal poste de dépenses. Pour ceux qui habitent en ville, évidemment, et qui ont des logements exigus. Vous nous appelez les voisins et les voisines. Quelle pression pour votre mariage ? On parle bien de l'organisation du mariage. 33 1 84 22 71 71. Dans quelques instants, on verra quelques noces au Nigeria racontées par Moïse Gomis, notre correspondant.
On s'est rencontrés, j'avais pas levé. J'avais tous les mecs sur le bas-côté. Fais belle et tu vas caber. Je me suis rendu, prends-moi cadeau. Dans les recoins de ma tête, y'a comme un truc qui m'a fait. Suis le faux pasteur et c'est ma conscience qui me l'a dit. Ok, je suis la cible, je prends tout le packaging. Je suis ok. Traite-tu de base? Tu me voulais, tu m'as eu. Il a fallu me prouver ton amour. Ah oui, la dot. Bébé,
bonnie and Clyde t'es validé. T'as tapé dans le mille de mon cœur. Je finis dans la vie avec toi. Suis-moi, tu verras. Ça deviendra illégal. Toi et moi, en bagaille. Et confiance, je suis là pour toi. Tu me voulais, tu m'as eu. Il a fallu me prouver ton amour. Tu me voulais, tu m'as eu. Il a fallu me prouver ton amour.
Nakamura, la dot chez 7 milliards de voisins. Oui, on parle du mariage. Alors, je précise quand même que la dot racontée par nos auditeurs qui ont livré leur témoignage, c'est bien une dot qui est versée à l'épouse, hein, et non pas le contraire comme en Inde, où c'est effectivement l'épouse qui doit payer une dot. Et c'est d'ailleurs pour ça que personne n'a envie d'avoir des filles en Inde. On retrouve notre correspondant à Lagos au Nigeria. Bonjour Moïse Gomis.
Bonjour Emmanuel.
Vous avez eu la chance et l'occasion d'assister à des mariages dans ce pays immense où la majorité des Nigérianes et des Nigérians estiment que le mariage traditionnel est plus important que le mariage religieux.
Effectivement, quelle que soit la région ou l'ère culturelle au Nigeria, le mariage c'est une affaire très sérieuse, Emmanuel. Au sud-est du Nigeria, par exemple, chez les Igbo, le mariage est quasiment une obligation pour un homme. Quelqu'un m'a même dit de façon un peu sévère qu'un vieux garçon, un célibataire endurci, était un raté.
Ah oui, carrément. Alors Moïse Gomis, le Nigeria, c'est plus de 190 millions d'habitants, 500 communautés linguistiques. Est-ce qu'il y a presque autant de façons de célébrer les mariages ou est-ce qu'il y a quand même un point commun à toutes ces communautés ?
En fait, le trait d'union, c'est la dot qui est pratiquée quasiment partout au Nigeria. Mmh. Par exemple, chez les Idoma, dans l'état de Benue, au centre du Nigeria, la dot est souvent constituée par la remise d'une chaise, de 20 palmes, une somme entre 70 et 250 euros. Mais souvent, le père de famille, il se contente de prendre juste 12 centimes d'euros avant de remercier son futur gendre. Il lui rend l'argent et lui dit de bien prendre soin de sa fille.
Ah oui.
Chez les Kanuri, dans le Nord,
on est vraiment dans la tradition symbolique, ça. Tout le monde devrait s'en inspirer, à mon avis.
Effectivement, dans le Nord, autre pratique, c'est les Kanouri, qui sont majoritairement musulmans. La dot, elle est incontournable et elle doit être spectaculaire. Alors que l'islam préconise la sobriété dans la dot, les Kanouri, majoritairement, ils n'ont pas de limite. Pour eux, c'est une façon de valoriser la femme Kanouri, de marquer son respect. Quand la dot est acceptée, le mariage se déroule sur plusieurs jours avec un moment clé, le wouché-wouché. C'est une cérémonie où la famille du marié vient saluer la famille de la mariée. Et les Kanouri adorent le fameux dashing, une procession. Les invités font pleuvoir des billets de naira sur les mariés et leurs proches.
Ouais.
Le dashing, on le retrouve aussi ailleurs, dans le sud-ouest, chez les Yoruba, où les mariages sont hyper flamboyants, avec des tenues de mariage très sophistiquées, un code de couleur imposé à tous. Lors de la cérémonie traditionnelle du mariage, en plus de la dot, le marié doit aussi payer pour avoir le droit d'entrer chez ses beaux-parents. Il paye aussi pour soulever le voile de la mariée et il doit payer aussi pour pouvoir lire la lettre de demande en mariage. Bref, chez les Yoruba, le cérémonial de la dot, c'est des listes interminables de cadeaux avec l'obligation de bien respecter ces cadeaux pour tout le monde. N'oubliez pas aussi qu'au Nigeria, quand vous êtes invité à un mariage, vous repartez souvent avec un cadeau souvenir. Souvent, c'est une sacoche avec une pochette en papier, avec en impression la photo des mariés et la date du mariage. Et dans cette sacoche, souvent, vous trouvez des serviettes, vaisselle, du parfum.
Wow.
Mais si vous avez la chance d'être invité par des hyper riches, vous pouvez repartir avec un téléphone portable de plusieurs centaines d'euros.
Ah oui, on sent le vécu, hein, là, j'ai l'impression, Moïse Gomis. Vous avez été invité à un mariage de ce type, non ?
Non, j'ai dû repartir avec un téléphone portable.
En tout cas, voilà, si vous voulez sortir essoré d'un mariage, et ben vous épousez une Yoruba, hein, si j'ai bien compris. Moïse, l'industrie nigériane du mariage contribue néanmoins à l'économie locale ?
Effectivement, si vous êtes à Lagos ou à Kano, vous allez trouver beaucoup d'entrepreneurs dans le secteur du maquillage, la restauration, la location de salles, de vêtements de luxe. L'exemple d'Oladjide Okeraye, qui est un des artistes maquilleurs les plus recherchés au Nigeria, il fait payer une mise en beauté, écoutez bien, au minimum 850 euros. Les photographes et vidéastes au Nigeria bénéficient d'un marché très dynamique. À Lagos, par exemple, il y a l'exemple d'une société qui s'appelle Cinematic, qui est partie juste d'un simple appareil photo classique il y a moins de 10 ans. Oui. Aujourd'hui, ils tournent des films de mariage avec des caméras VR360. Alors, c'est un format vidéo qui est celui de la réalité virtuelle à 360 degrés. Donc, vous vivez le mariage comme si vous y êtes. Mm. Pour finir, les mariages avant étaient payés davantage par les parents de la mariée. Aujourd'hui, ce sont les familles qui s'entendent pour partager les frais parce que les frais sont oui. immenses. Et de plus en plus de couples payent aussi leur mariage pour garder la main sur le déroulé du mariage. Le prix des mariages au Nigeria, ça varie entre 5 000 et 7 500 euros quand on est en milieu urbain. En milieu rural, évidemment, les coûts sont moindres. Mais pour certaines familles de milliardaires nigérians, la facture peut s'élever en millions d'euros.
Eh bien, merci beaucoup pour ce point sur le mariage au Nigeria, Moïse Gomis. Vous êtes estomaqué des sommes qui sont citées. Alors évidemment, hein, chez les gens, dans les familles très aisées au Nigeria, Inès Matsika et Marina Marcou.
Ah oui, 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 parce que le premier prix, c'est 5 500 euros. C'est quand même élevé comme somme. Et puis alors d'entendre que ça peut grimper jusqu'à plusieurs millions d'euros, j'aimerais bien être invitée à ce style de mariage.
Oui, pour... En même temps, vous nous disiez en début d'émission toutes les deux qu'on prend aujourd'hui très fréquemment un crédit à la consommation pour payer son mariage.
Et c'est regrettable dans un sens de prendre un crédit parce que quand on dit que ce sera le plus beau jour de sa vie, bah d'abord on espère que non parce qu'il y aura d'autres jours à venir et de commencer sa vie avec un crédit sur le dos alors qu'on peut faire quelques économies tout en se mariant et en ayant une réception tout autant réussie, c'est envisageable.
En tout cas, le mariage sur les réseaux sociaux, bah, c'est presque partout dans le monde hein, finalement. Inès Matsika, on se marie avec une page Facebook. D'ailleurs, vous conseiller dans le bouquin, alors il faut créer sa page Facebook, il faut Twitter pour faire le décompte avant le grand jour, donc tous les jours, le décompte, toutes les heures avant la cérémonie, etc. Qui est censé faire ça d'ailleurs?
Les futurs mariés, l'idée c'est quand même aussi de pouvoir passer le maximum d'informations à leurs invités, tout simplement, donc de concentrer tout ça dans un lieu virtuel, et puis ça permet également aux gens de pouvoir communiquer entre eux, d'organiser des choses comme un covoiturage qui peut être très pratique pour aller sur le lieu de la réception, et en je pense que c'est vraiment une façon aussi un petit peu de se délester en mettant un maximum d'informations dans un lieu où les invités peuvent vraiment avoir toutes les informations possibles. Et puis, on évite les coups de fil toutes les 5 minutes. Et
c'est ça. Instagram, on poste maintenant des photos même avant le mariage?
Oui, on peut mettre des petits... On fait du teasing. Oui. On va montrer un petit morceau de sa robe sans la dévoiler entièrement. On va montrer un petit peu des morceaux d'ambiance qui vont nous attendre le jour J.
Oui, c'est ça. C'est du spectacle.
C'est un feuilleton.
C'est du vrai teasing.
Des anonymes se sont rendus célèbres avec leur Instagram de mariage, il paraît.
Alors, c'est surtout des...
Il y a pas un couple de Russes.
Alors,
comme ça.
Eux ont d'abord été célèbres par leurs photos de voyage. C'est le fameux couple qui se tenait par la main. On voyait la jeune femme devant qui tenait la main de son conjoint. Et parce qu'ils sont devenus célèbres, leur mariage a été extrêmement suivi. Mais ils étaient d'abord célèbres sur Instagram. Hein, c'était effectivement des influenceurs. Ils sont devenus... ils ont surfé sur leur notoriété pour leur mariage.
Ouais. Photographe professionnel obligatoire aujourd'hui?
Oui, il vaut mieux. On pense qu'avec tous nos smartphones, on est tous un petit professionnel de la photo. Ben non. Surtout que le jour J, les amis ne vont pas forcément prendre en photo la tante Aglaé qu'ils ne connaissent pas. Et on va se retrouver avec des photos qui les intéressent eux, mais pas qui représentent toute la famille. Donc un pro saura faire la différence et prendra tout le monde en photo. Il sera le seul à être capable de rassembler toute la famille pour une photo de groupe.
Et de capter vraiment les moments importants aussi, hein, de ne pas passer à côté.
Mais alors vous en arrivez même à conseiller aux mariés d'interdire les téléphones portables?
Pas les interdire, mais les utiliser avec parcimonie.
C'est ce que font certaines stars, hein, d'ailleurs, ça a été rapporté dans les journaux.
Pour pas que ça soit vendu à la presse, c'est aussi pour,
ça. Le mariage devient tout à fait hollywoodien.
Oui, mais parce que de voir des invités qui passent leur temps derrière leur téléphone, c'est pas très agréable. Et puis surtout, ça embête les... ça va embêter les mariés. Au bout de 15 fois, quand quelqu'un leur dit, tu peux poser, s'il te plaît, là, tu peux poser, qu'on prenne la photo, ils en auront ras-le-bol. Et d'ailleurs, ils diront professionnel, ben non, là, on n'a pas le temps. Donc non, on va demander aux invités, vous pouvez utiliser votre appareil maintenant, mais on va se calmer peut-être à l'heure du repas.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Bien sûr, on vous donne aussi la parole en direct et pas seulement vos messages postés sur Instagram et vos messages écrits. Abdou est en ligne à Nouakchott en Mauritanie. Bonjour Abdou.
Bonjour Emmanuel, bonjour à toutes les auditrices et les auditeurs de l'Europe.
Eh ben vous êtes le bienvenu chez nous, Abdou. Vous avez 29 ans et vous avez annulé votre mariage.
Tout à fait, Emmanuel, j'ai annulé mon mariage. Pourquoi? Parce que je suis d'origine malmalien et ma fiancée aussi, elle est malmalienne, qui habite à Bamako. Oui. Alors voilà, on avait décidé de se marier. Les deux derniers mois, je me suis fait une économie de 3 000 $.
3 000 $
Quand on a calculé tout, les photographes, ouais. Il faut aller...
Le mariage devait se dérouler à Bamako ou à Nouakchott, Abdou?
Bamako.
Donc vous aviez fait vos comptes, il y en avait pour 3 000 $.
Oui, c'est ça. Ouais. Et voilà, avant le jour même du mariage, et moi, j'ai dû appeler ma fiancée, et elle seule et moi, je lui ai expliqué, je lui ai dit, moi, en tant qu'économiste de formation, je ne peux pas comprendre, et que j'ai passé énormément de temps pour pouvoir économiser une somme de 3 000 $, investi 3 000 $, une seule journée, et après, ça sera la galère, surtout, je ne peux pas le comprendre. Ouais,
ça vous semblait complètement irrationnel de dépenser 3 000 $ pour un mariage. Il y avait la dot dans ce prix-là, dans cette somme-là, Abdou?
Il n'y avait pas la dot, c'est après la dot et tout. Après la dot et tout.
C'était ça, en plus, la dot, c'était en plus.
Oui, bien sûr.
Et alors aujourd'hui, vous êtes toujours avec votre fiancée ou pas?
Oui, je suis toujours avec elle. Elle n'a pas de problème parce que le problème ne venait pas d'elle, mais le problème venait de son entourage.
Oui, d'accord. Donc, vous filez toujours le parfait amour, c'est l'essentiel.
Bien sûr. Moi, je l'ai appelé, je l'ai expliqué la situation et elle l'a compris. Je l'ai dit, si on pouvait utiliser 1 000 $, les 2 000 $, on pourrait les utiliser après le mariage dans une activité génératrice de revenus.
Bah oui, bien sûr.
Oui, elle a dit que c'est tout à fait vrai. Et voilà, donc elle a compris, moi aussi j'ai compris. Et de son côté, elle a essayé de convaincre son parent. Ses parents, mais malheureusement, les parents ont dit non.
Ils ont dit non. Donc du coup, c'est vous qui avez dit, on ne se marie plus. Très bien. C'est vous, finalement, c'est quand même les mariés qui ont le dernier mot. Hein. Il ne faut pas oublier. Merci Abdou de nous avoir appelé de Nouakchott. Peut-être que les mariés ont tendance à l'oublier, non?
C'est bien
de
rappeler.
Oui, effectivement. Puis il a pris une décision, lui et sa compagne ont pris une décision bien sage. Hein. Ils se sont montrés adultes face à leur entourage.
Et courageuses.
Oui, et courageux.
Et vous, toutes les deux, alors, mariées ou pas, Marina Marcou?
Ah non, je ne suis pas mariée, j'ai failli l'être.
Ouais. Vous avez annulé votre mariage?
Moi aussi, effectivement, comme Abdou, j'ai annulé mon mariage, pas pour les mêmes raisons, mais j'ai annulé mon mariage 2-3 mois avant le jour J.
Ouais.
Ça devait être un grand mariage, on devait être plus de 200 invités, en Écosse, puisque je suis franco-écossaise. On avait même privatisé des avions, et je me suis dégonflée.
Ah ouais, c'est quand même amusant pour une journaliste spécialisée mariage. Et vous, Inès Matsika?
Non, je ne me suis jamais mariée non plus, mais ça ne m'a pas empêchée d'avoir une vie de femme et,
avec des
et d'être
enfants.
Mère de famille. Oui,
ouais, c'est ça. Mais vous êtes typiquement le couple français qui ne se marie pas.
Alors, ex-couple.
Ex-couple.
Ex-couple, mais effectivement, quand on était ensemble, on n'a pas ressenti la nécessité, en fait, de passer ce contrat de mariage.
Alors, qu'est-ce que vous donneriez? Parce qu'on vous sent quand même assez ironique, assez critique sur le mariage. Hein. Bien que vos conseils soient tout à fait ancrés dans la réalité et au plus près des inquiétudes des fiancés. Mais qu'est-ce que vous donneriez comme dernier conseil là, pour ceux qui préparent leur mariage ou pour ceux plutôt qui se prennent la tête avec leur mariage?
De rester vraiment fidèle à soi-même, en fait. De ne pas chercher à correspondre à une certaine image un petit peu figée, telle qu'on a vraiment pu l'expliquer tout au long de cette émission, que l'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, qui est très normée au final. C'est de faire un mariage qui ressemble vraiment à ce que l'on est et dans la limite d'un budget absolument raisonnable et surtout de garder en tête qu'on est là pour passer un moment délicieux, pour s'engager auprès de ses proches et faire la fête tout simplement. Il faut oublier la pression.
Marina Marcou.
Oui, je suis d'accord avec Inès et j'aimerais ajouter, comme on l'a dit au départ, c'est toi Inès qui le disais, il ne faut jamais oublier que c'est deux personnes qui s'aiment, qui s'unissent, et ça ne faut pas l'oublier. Et le jour J, c'est ce qu'on dit souvent aux futurs mariés, n'oubliez pas le jour J de vous isoler tous les deux. Prenez un peu de recul, partez 10 minutes, un quart d'heure et demandez à l'autre, comment ça se passe pour toi? T'es content? T'es contente, toi? T'es heureux? T'es heureuse aujourd'hui? Se rappeler pourquoi on est là.
Les vraies questions fondamentales.
Les vraies questions et pas de se demander si le plat qu'on a choisi va plaire à la famille. Non, t'es heureuse? T'es
donc,
heureux?
On abandonne pour quelques minutes les listes.
Hein. On oublie.
Vous restez avec nous. Alors donc, je redonne le nom de votre guide pratique. Organiser son mariage, planning, budget, adresse, conseil et témoignage, bien sûr, pour faire baisser la pression. Merci à vous, Marina Marcou, Inès Matzika. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission.
Avec plaisir.
Merci de nous avoir invités.
Et dans quelques instants, justement, gros plan sur je sais que vous aussi, vous éditez un podcast toutes les deux, mais sur les ruptures amoureuses. Oui. C'est quand même drôle quand on est journaliste spécialisé dans le mariage. Gros plan sur le premier podcast de Charlie Dupiau et Alice Milo, avec une mise en onde Romain Dubrac. On leur donne la parole dans quelques instants. Ça sera juste après. Bah oui, il fallait ça au moins. Give me love. Charlie Dupiau nous ont rejoints dans le studio des 7 milliards de voisins. Bonjour les filles.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes reporter, les auditeurs vous connaissent pour 7 milliards de voisins, écoutent vos reportages et vous travaillez aussi pour d'autres émissions à RFI, pour d'autres radios, mais surtout vous lancez à titre indépendant aujourd'hui votre premier podcast Post-Scriptum. Quel est le concept?
Alors le concept, c'est de faire de la médiation sociale à travers des lettres sonores. Alors en fait, on est parti du constat, parce qu'on travaille depuis des années toutes les deux sur le terrain, qu'il y a plein d'espaces dans la société où en fait le dialogue, la communication est vraiment difficile. On n'arrive pas à se parler, on n'arrive pas à dire. Et donc on s'est dit, tiens, voilà, il va falloir recréer un endroit, un espace où les gens puissent se parler. D'une part, pour que ce qu'on a sur le cœur puisse être dit, et d'autre part, pour que la personne à qui on s'adresse puisse entendre ce qu'on a à dire. Et on s'est dit, pourquoi pas écrire des lettres sonores. Donc l'idée, c'est que chacun puisse, nous, on les accompagne, en fait, on accompagne celui qui a à dire quelque chose, alors ça peut être à l'école, ça peut être à l'hôpital, ça peut être dans la sphère intime, dans le couple, etc. C'est partout que la communication, elle est difficile.
Oui, ça peut sembler assez paradoxal d'ailleurs, hein, Charlie Dupiau, parce qu'on n'a jamais autant parlé grâce à Internet, et en même temps, la communication semble plus difficile.
On parle en fait beaucoup de soi aussi sur les réseaux sociaux, sans forcément attendre de réponse de l'autre. On s'exprime comme on veut. Là, ce qu'on a vraiment envie de créer, c'est de l'écoute en fait. C'est susciter l'empathie chez la personne qui va écouter, écouter ce que l'autre a à dire, ce que l'autre ressent. Et c'est vraiment créer ce dialogue. C'est ce dialogue qui est un peu plus rare peut-être.
Ouais. Alors justement, on va écouter des extraits des trois premiers podcasts. Cher donneur, cher camarade de classe, cher orgasme.
L'hôpital nous appelle pour nous dire ça y est, c'est fini. On nous a expliqué ce qui se passait exactement, que donc le cerveau avait été comme une voiture, quoi, genre le moteur ne fonctionne plus, mais par contre toutes les pièces sont bonnes à prendre en gros, quoi.
Il y a un médecin qui est rentré à 11h18 dans ma chambre, 23h18. J'étais en train de regarder Friends avec ma sœur. J'étais vraiment bien ce soir-là. Et à ce moment-là, il m'a dit « Bon, ben, arrêtez de manger, parce que c'est ce soir, on a un cœur pour vous. »
Chère famille de donneurs, j'ai cherché un mot dans la langue française pour vous dire ce que je ressentais, mais il n'y en a pas d'assez fort. Je ne peux utiliser que le mot « merci ». Je veux vous dire que votre enfant, votre parent, votre être aimé ne me quitte pas. Que chaque jour, j'essaye d'être digne du don que j'ai reçu de vous.
Chère Marie, on est dans la même classe et cette année, ça a été compliqué entre nous. Il y a des choses de mon passé que tu ignores et tes mots m'ont blessée.
Eh ben, on s'est battu et puis moi, j'ai rien eu physiquement, mais moi, je lui ai ouvert l'œil, l'arcadre et la bouche.
Si je me replonge dans mon enfance, un de mes premiers souvenirs lié à ma sexualité et lié à l'exploration de ma sexualité, je le date quand même assez tôt, autour de 7-8 ans.
T'es en pyjama dans ton canapé, en train de mater des dessins animés, et là, bim, il se passe un truc quand tu te touches, et je dis « Oh putain !» Donc ça, je m'en souviens très bien.
Cher orgasme, quelle découverte, quel plaisir quand tu entrais dans ma vie. Il y a clairement eu un avant et un après.
Post-scriptum, donc podcast indépendant par Alice Milo, Charlie Dupio. Comment vous avez travaillé pour le choix des thématiques ?
Alors en fait, on a eu envie d'investir des espaces de la société où le dialogue était difficile. Donc là, on a entendu des extraits de plusieurs de nos premières lettres sonores, notamment « Chers camarades de classe » qui se situe dans un lycée professionnel à Auxerre, en Bourgogne. Ce sont deux élèves, Marie et Émilie, qui ont 18 ans et qui se sont bagarrés violemment il y a quelques mois et qui n'en ont jamais reparlé depuis et qui reviennent en fait par l'intermédiaire de lettres sonores sur ce conflit et sur en fait ce que ça représente pour elles dans leur vie, leur rapport à l'école. C'est aussi le conflit, c'est aussi une façon de recréer le dialogue, mais aussi de raconter les vies de ces jeunes filles et leur rapport
c'est ça,
à l'école.
Et de comprendre pourquoi la communication est bloquée finalement, parce que derrière, il y a toujours des douleurs, des souffrances.
Et surtout qui nous empêche d'avancer. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir libérer. Il y a un côté très thérapeutique dans notre approche. C'est-à-dire qu'on veut vraiment que les gens se sentent mieux en fait après avoir dit. Et nous, on est là aussi pour les accompagner dans cette révélation à eux-mêmes en fait. Parce qu'au moment du temps de l'interview, en fait, ils sont souvent surpris par l'immensité de tout ce qu'ils ont à nous raconter en fait. Et de l'autre côté, la personne qui va écouter, elle est obligée d'entendre jusqu'au bout et sans réagir. Et ça, c'est vraiment important parce qu'en fait, dans les médiations classique aujourd'hui, on est forcément interrompu, pas forcément par l'autre qui va accepter d'écouter tout ce que vous avez à dire jusqu'au bout, mais ne serait-ce que par son visage, par ses expressions. Là, c'est aveugle en fait. C'est une médiation aveugle qui permet de ne pas empêcher l'autre d'aller au bout de son idée en fait.
C'est la première fois que vous vous lancez dans l'aventure du podcast. Quelle est la différence avec la radio ?
La vraie différence, c'est celle du format en fait et de la durée. Une histoire peut avoir la durée qu'on lui donne en fait. On considère que c'est le sujet qui va définir la forme et la durée et pas l'inverse, ce qui est un peu le cas en général dans les radios traditionnelles. Et donc là, on peut vraiment s'adapter. Il y a aussi une liberté dans la façon de raconter les histoires. On peut d'un podcast à l'autre, d'une lettre sonore à l'autre, complètement changer la façon de raconter. Voilà, on n'a pas de générique, par exemple, comme d'une émission. Il y a beaucoup de choses, de contraintes qui n'existent plus et qui permettent une façon de raconter les histoires un peu différentes.
Comment vous expliquez, toutes les deux, le succès du podcast ? C'est une écoute, quand même, sur du temps long pour une génération très, très happeuse, non, Alice Milo ?
Mais moi, j'ai le sentiment qu'en fait, quand il y a de la qualité, les gens, ils sont prêts à prendre du temps, en fait. Quoi. C'est...
Et des histoires.
Ouais.
Parce que l'idée, c'est d'entrer dans des histoires, dans des récits, quand même.
Ce qui qui est important, c'est qu'il y ait de l'universalité dans toutes les histoires qu'on raconte. Et en fin de compte, on arrive toujours à se raccrocher quelque part, même si par exemple, là, on a une lettre sur le don d'organes. Il n'y a pas besoin d'avoir été greffé ou d'avoir donné un organe pour se sentir concerné par l'histoire, en fait. Il y a un moment donné, il y a une résonance qui se crée à un endroit ou à un autre qui fait qu'on est happé par l'histoire de l'autre et qu'on se sent concerné.
Alors, ce qui est amusant, c'est que nos invités qui sont spécialistes des organisations de mariage, Marina Marquines, Matsika, qu'on a entendu tout au long de l'émission, vous êtes aussi productrice de podcasts. Et votre podcast s'appelle Résurrection. Il y a un jeu de mots, enfin, c'est écrit avec un
EX, comme
voilà,
un X.
EX, exactement. C'est renaître à partir d'une rupture. C'est
comment
ça le principe.
Rebondit, comment on peut rebondir après une séparation amoureuse?
Ouais, c'est ça, vous valorisez à mort la séparation amoureuse.
On l'encourage pas.
C'est quand même drôle. Non, on n'est pas là pour l'encourager, effectivement. L'idée, c'est de donner la parole à des femmes qui se sont vraiment remises au centre dans leur vie après une rupture amoureuse, qui se sont retrouvées, qui ont découvert des choses qu'elles ignoraient d'elles.
Quatre femmes qui font des podcasts. Il y a quelque chose de très féminin dans le podcast, selon vous?
Il y a beaucoup de femmes qui font des podcasts. D'ailleurs, en tout cas, pour ce qui se passe en France, ce sont beaucoup de podcasts féministes où on parle du féminisme sous toutes ses formes. Et c'est aussi une façon de s'emparer du micro. Le podcast, on s'empare du micro quand on est une femme. Il y a beaucoup de thématiques aussi qui sont moins abordées peut-être dans les médias traditionnels qui le sont dans le podcast. Et ça, c'est aussi intéressant à voir.
Des sujets plus intimes, finalement. Vous êtes un peu dans les creux de le creux des sujets, de ce qui n'est pas abordé habituellement, non, d'une certaine manière.
Oui, on s'éloigne de l'actualité, on s'éloigne d'un temps qui est fort et on se recentre sur soi, mais c'est tout aussi important dans cette possibilité d'avancer soi-même sur son chemin, en fait. Donc il y a toujours ce côté thérapeutique.
Et puis on prend le temps de raconter,
c'est ça
que vous le disiez tout à l'heure.
Et vous êtes d'accord aussi avec un intérêt féminin, un regard féminin sur le podcast?
Oui, un peu plus. Alors, est-ce que c'est parce qu'on est femme qu'on s'est plus penché sur la question des podcasts féminins? Mais quand on entend le concept du podcast post-scriptum, je n'ai pas l'impression que ce soit juste féminin, voire féministe, au contraire.
Non, d'ailleurs, on a un homme dans notre équipe.
Et comme nous,
Romain Dubrac, le réalisateur. Voilà.
Nous, on a interviewé. Et puis, on a interviewé aussi des hommes, parce que la rupture n'est pas juste réservée aux femmes.
Ouais. Alors, les prochains épisodes vont porter sur Alice Milo, Charlie Dupiau.
On a une lettre sonore qui s'appelle Chère maternité, qui concerne la fermeture de la maternité du Blanc dans l'Indre. Alors ça, c'est pour le coup un sujet quand même d'actualité, puisque voilà, il y a de plus en plus de structures médicales qui ferment dans les régions. Et donc, on entend là, dans cette lettre, une sage-femme qui a travaillé dans cette maternité, une maman qui a accouché de son premier enfant dans cette maternité, qui ne pourra pas accoucher de son second enfant dans cette maternité. Et puis, la directrice de l'agence régionale de la santé de la région Centre qui défend son point de vue, puisqu'on est encore dans une idée de médiation. Donc l'idée, c'est que chacun puisse donner son point de vue et dialoguer de manière apaisée autour de cette question.
Et celle-ci sera diffusée à partir de dimanche. Et on a également en préparation une lettre sonore qui s'appelle Chère classe, dans laquelle on va revenir sur une classe de 3e pro qui a été très difficile à gérer pour les enseignants. Donc on va entendre les enseignants de cette classe, dont certains ont renoncé à leur métier après être passés par cette classe, et puis aussi d'anciens élèves, à la fois des élèves qui ont suivi les cours, qui étaient plutôt de bons élèves, et puis les élèves perturbateurs qui étaient à l'origine des problèmes de discipline.
Est-ce qu'il y a je sais que vous écoutez beaucoup de podcasts depuis plusieurs mois, toutes les deux, est-ce qu'il y a un podcast qui vous a marqué, Charlie Dupiau, où vous vous êtes dit tiens, il y a quelque chose qu'on n'a jamais entendu ailleurs de cette façon-là à la radio?
Alors, il y a un podcast qui s'appelle Kebab Blues, d'une jeune autrice radio qui n'en avait jamais fait jusqu'à l'année dernière, qui raconte en fait une scène qu'a vécu son groupe d'amis dans un kebab, d'où le titre Kebab Blues. En fait, une femme noire est entrée, je le précise parce que c'est important pour l'histoire, dans le kebab. Et là, un homme lui a crié « Ici, on est en France, on ferme les portes ». Elle n'avait pas fermé la porte. Et en fait, ce qui est raconté dans cette histoire, dans ce podcast, c'est la réaction de ce groupe d'amis qui, en fait, ne réagit pas, ne dit rien et qui s'en veut, en fait, après. Et l'idée, c'est qu'elle est allée voir toutes les personnes qui étaient présentes ce jour-là du groupe d'amis pour raconter chacun leur version de ce qui s'est passé. Alors, évidemment, personne n'a la même version, personne n'a même les mêmes mots pour la phrase. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis, chacun raconte aussi sa culpabilité de ne pas être intervenu. Et ça, c'est quelque chose que j'avais jamais entendu. Il y a un vrai rythme qui se crée. C'est quelque chose qui est difficile à classer.
Et qui vous a donné envie.
Et qui est marquant. Ouais.
Vous aussi, de faire un podcast. Donc, à retrouver votre podcast, Charlie Dupiau, Alice Milo, lettres sonores sur une plateforme.
Alors sur Ocha, sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, on est partout.
Voilà, n'hésitez
pas à nous suivre.
Postpartum-podcast.fr.
Et on mettra bien sûr le lien sur notre page. Merci, merci à toutes les deux. Merci à vous, Marina Marcou, Inès Matsika. Demain, l'école en crise au Sahel. Comment sécuriser les salles de classe ?